Mathieu Ménégo, Je me suis tu chez Grasset, c'est un premier roman, je veux dire, qui m'a complètement bluffé, que j'ai avalé d'une traite en une soirée. Ce qui m'intéresse tout d'abord, alors ça va être un peu compliqué de parler de ce livre sans le spoiler, mais tout de même, ce qui m'intéresse, moi, de manière générale, et en particulier pour votre livre, c'est la genèse d'un texte. Et alors celui-ci, il est venu d'où? D'un thème que vous vouliez aborder, d'une situation où d'un personnage. Quel a été l'élément déclencheur?
Vraiment, c'est un roman. C'est-à-dire qu'il n'est inspiré par aucun fait divers ou par aucun personnage existant. Je me suis réveillé un matin avec l'image d'une femme ayant subi une agression terrible et, au fond, l'œil était dans la tombe et regardait qu'un. Je crois que c'est vraiment les deux images qui m'ont inspiré ce bouquin. Et je ne suis parti qu'avec ça. C'est-à-dire que je ne savais pas écrire un livre. Je suis parti avec cette image et j'ai avancé au fur et à mesure de l'écriture. Donc c'était vraiment quelqu'un qui, au fond, a voulu jouer un tour au destin, et le destin s'est vengé.
Alors, ce qui peut paraître surprenant, a fortiori pour un premier roman, et puis souvent on dit que le premier roman a une dimension très autobiographique, donc ici vous en êtes aux antipodes, ce qui peut paraître surprenant, c'est le choix justement d'un personnage féminin.
Je crois que, la seule réponse que je puisse donner à ça, c'est que je crois que j'aurais eu envie d'être une femme. Pour moi, les femmes sont des êtres magiques, ce sont elles qui donnent la vie, elles ont, au fond, le pouvoir suprême. Et nous, on court après l'argent, le pouvoir, on fait la guerre. On fait tout ce qu'on peut pour essayer de compenser cette absence de transmission de la vie.
On perd sa vie à la gagner.
C'est une façon de
le résumer. Je vous cite.
Absolument. Et puis, la littérature, c'est une façon de sortir de soi. Peut-être que la façon la plus extrême de sortir de soi, c'était de changer de sexe. Donc, je crois que j'ai essayé de faire ça et j'y ai pris un plaisir fou. Et en réalité, il m'est arrivé dans ma correspondance professionnelle de me mettre à accorder des verbes du premier groupe avec le E à la fin. Et là, je me suis dit, bon,
c'est au
féminin.
Donc pendant que vous étiez plongé dans l'écriture du livre, dans vos écritures professionnelles, vous passiez au féminin.
Exactement. Parce que le début, pour le coup, a été très difficile de se mettre effectivement dans la peau d'une femme.
Ben, vous me tendez la perche pour la question suivante. Vous parliez de la femme qui a le pouvoir de donner la vie. Et je dirais, ça on peut en parler sans déflorer l'intrigue, que l'infertilité dans un couple est l'un des thèmes ici que l'on trouve au cœur du livre, que vous creusez. Et on se rend compte à quel point ce problème d'infertilité dans un couple peut devenir une espèce de poison lent.
Oui, mais c'est au fond ce qui déclenche. Ce qui déclenche ce livre, c'est-à-dire que on est là avec un couple qui a tout pour être heureux. Ils ont chacun un très beau job, ils s'aiment, ils sont bien ensemble, ils ont une vie sociale très riche, et ils souffrent chacun de leur côté de l'absence d'enfants. Et c'est au fond cette souffrance qui fait que un de ces multiples dîners en ville auxquels on participe parce que justement ça devient central dans la vie puisqu'il n'y a pas d'enfants. À un de ces dîners en ville, Claire, l'héroïne, s'en va et dit « Moi, je peux plus, j'ai pas envie de voir cette famille avec les enfants modèles, la famille parfaite, ils sont formidables. » Elle est submergée de désespoir à cette vue-là, tellement les enfants lui manquent. Elle décide de rentrer seule, elle prend un Vélib, elle va faire une mauvaise rencontre et c'est le début du livre.
Pourquoi l'infertilité dans votre livre ? C'est une question qui, à titre personnel, vous interpelle ?
Non, je crois que ça revient à effectivement au côté magique de la paternité et de la maternité. Et les Chinois nous disent, au fond, une vie n'est complète que quand on a eu un enfant, planté un arbre et écrit un livre. Je crois que ça résume beaucoup, beaucoup de choses. Et qu'on est là pour perpétuer l'espèce à un moment. Donc, une vie sans enfant, j'arrive pas à imaginer à quel point on peut souffrir au fond d'une vie sans enfant. J'ai la chance d'en avoir, donc je suis très privilégié.
Alors, ce qui est le moteur de ce livre, ce qui va faire vraiment avancer votre histoire, l'intrigue, je dirais que c'est l'orgueil. Finalement, Claire, votre personnage, elle pêche par orgueil. C'est ce qui va l'entraîner dans cet engrenage infernal.
Exactement. C'est quelqu'un qui va placer, au fond, l'image qu'elle renvoie au-dessus de ce qu'elle est ou de ce qui est important.
Ou de ce qui lui arrive.
Ou de ce qui lui arrive. Et donc, elle fait cette mauvaise rencontre. Elle est victime d'une agression terrible. Elle est violée. Et elle va se dire, je ne veux pas qu'on change le regard que les autres portent sur moi. Je ne veux pas être la victime. Je ne veux pas me promener dans la rue avec une étiquette fragile collée sur le front. Je ne veux pas que mon mari me regarde différemment. Je veux, au fond, dans cette situation-là, comment mon mari va réagir, je n'en sais rien. Je ne veux pas que tout ce que j'ai patiemment construit, etc., s'effondre d'un coup. C'est le péché originel. C'est-à-dire que, au fond, c'est une toute petite décision. Cette décision-là, elle n'est pas si grande que ça. Et j'imagine.
Enfin, elle est quand même au moment où il faut la prendre. Elle est lourde pour elle, pour cette femme qui vient d'être violée et qui, en quelques minutes, décide de garder ça pour elle.
Et je crois que ça lui vient de manière très naturelle. C'est-à-dire qu'au fond, elle se projette tout de suite. Mais elle n'anticipe pas tout ce qui va se passer derrière et toutes les conséquences que cette décision va avoir. Kafka disait, dans un combat contre le monde, je parierais plutôt sur le monde. Je crois que le livre est là pour montrer qu'effectivement, on peut... Enfin, j'ai aussi voulu le construire comme une tragédie. C'est-à-dire qu'on a finalement une héroïne qui essaye de se battre contre le destin. Le destin s'acharne, mais elle reste libre. Je trouve que ce qui est intéressant, au fond, c'est que on est pris avec elle dans cette espèce de tourbillon, on n'arrive pas à le lâcher, on veut savoir ce qui se passe. Mais à chaque fois, à chaque étape du livre, elle peut s'en sortir. Elle a juste à lever le doigt et à dire « pousse ». Il suffit qu'elle dise « pousse ». Et tout ce qui s'est passé, au fond, elle devient la victime, elle est centre de l'attention, elle serait prise en charge, aidée, assistée, tout ce qu'on veut, au lieu d'être... Vouée aux gémonies, accusée, et non. Elle va rester cohérente à son choix initial, et c'est là qu'on va retrouver effectivement l'orgueil. C'est-à-dire que, bon, à chaque étape, elle pourrait s'en sortir. Non, elle continue sur sa ligne de se dire c'est mon choix et je vais aller au bout.
Elle prend donc la mauvaise décision. Pourquoi ne dit-elle jamais pousse ?
Parce qu'elle vit dans le regard des autres. Parce qu'au fond, ce qui l'a construite, c'est vraiment ce regard des autres. Et. C'est miroir à mon beau miroir. Enfin, elle vit là-dedans, elle vit sur ses apparences. Et c'est peut-être là qu'on rejoint le thème de l'infertilité. C'est-à-dire que sa vie, c'est ce qu'en pensent les autres.
L'autre grande leçon, entre guillemets, je dirais, de ce livre, c'est qu'il ne faut jamais s'enfermer dans le silence. C'est un ennemi terrible, le silence.
Elle est effectivement victime de son silence. Et une des remarques, au fond, que font les lecteurs, c'est de se dire... Où sont les amis ? Et c'est effectivement une femme qui, même vis-à-vis de ses amis, ne va pas avoir envie de s'ouvrir. Et ce silence va la conduire dans des situations qui sont des situations où, en réalité, la seule caisse de résonance, c'est elle. Donc elle se parle, elle discute avec elle-même, et elle prend des décisions qui ont de moins en moins de sens, même si elles sont parfaitement cohérentes du début à la fin. C'est quelqu'un qui, en réalité... à mon avis, accorde beaucoup, beaucoup d'importance à la construction intellectuelle. En réalité, elle se dit que ouais, le cerveau, c'est plus fort que tout. Donc, si j'ai pas faim, si je décide que j'ai pas faim, j'ai pas faim. Si je décide que j'ai pas soif, j'ai pas soif. Alors que, bon, à un moment, effectivement, on doit retrouver quelques besoins naturels. Et j'imagine que parler fait partie des besoins naturels. On n'est pas fait pour se taire.
La mécanique du livre, elle est vraiment pour un premier roman, je la trouve parfaitement réussie, elle est implacable, c'est une lecture addictive. Elle commence, on n'a pas précisé encore, mais en espèce de flashback, puisqu'elle est en prison, voilà. Elle vient d'être condamnée et elle va nous raconter, elle se lance dans l'écriture d'un texte, une nuit dans sa cellule, pour, alors on va comprendre bien sûr pourquoi elle est là, dans cette cellule, et ce qu'elle a fait pour se retrouver dans cette situation. Est-ce que cette construction s'est imposée à vous d'emblée ?
Pas d'emblée, non. J'ai commencé par le dîner en ville. La première façon de poser la situation, c'était le dîner en ville. Et puis, c'est pareil, un matin au réveil, je me suis dit, en réalité, non, on est dans une tragédie. Et dans cette tragédie, je veux l'unité de temps, l'unité de lieu, l'unité d'action. Et au fond, j'ai envie d'attraper le lecteur tout de suite. Je l'ai vue, cette femme, dans cette cellule de la maison d'arrêt de Fresnes, avec tout ce qu'on peut imaginer, le lit à barreaux, le bruit, l'odeur, la solitude infinie de cette cellule. Et au fond, le côté « il faut que je parle », le verdict de mon procès, c'est demain. Je ne vais plus avoir l'occasion de parler. C'est ma dernière chance. Et donc, je me lance dans cette confession. Ça fait plus de 2 ans maintenant que je me tais. Et ce qu'on s'est dit, c'est le silence, c'est insupportable. Donc, maintenant, il faut que j'y aille.
Cette technique du récit, je disais, elle est remarquable. Et pourtant, vous êtes un romancier débutant. D'où vous vient, j'allais dire, cette technicité?
J'ai la chance de faire un métier où il faut raconter des histoires. Donc, raconter des histoires, c'est prendre quelqu'un pour l'emmener d'un point à un autre. Ça vient d'une seule chose, c'est ça vient de la lecture. C'est-à-dire que je suis un très, très grand lecteur. Je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je me suis probablement inspiré d'un certain nombre d'auteurs. Je pense à Sébastien Japrisot ou des gens comme ça, où on rentre dans un truc et on ne peut pas le lâcher. Enfin, c'est impossible de reposer le livre. Et j'avais envie de ça. Et ensuite, c'est un travail qui a été fait avec mon éditrice, à qui je rends un grand hommage, qui m'a aussi en permanence rappelé « Non mais attends, cette femme, elle est dans l'urgence. Donc la petite digression ici, on l'enlève. La petite digression là, on l'enlève. Et on se focalise sur la narration, sur on emmène le lecteur, hop, à l'étape d'après.
Quel métier faites-vous alors là? Vous avez titillé notre curiosité.
Oh, je suis consultant pour des entreprises.
Et on raconte des histoires dans ce cadre-là.
Dans les grandes entreprises, il faut raconter des histoires. Quand on veut mobiliser les gens, oui, il faut raconter des histoires simples. Les grandes entreprises vivent des sujets très compliqués. Et l'idée, c'est de remettre ça dans des environnements plus simples, oui.
Et de capter en tout cas l'attention d'un public, et donc ici, et capter l'attention d'un lecteur. Alors, il y a une particularité dans ce roman, ce sont des titres de chansons qui viennent ponctuer comme ça le texte. Au début, j'avoue que ça m'a un peu perturbé, et puis bon, on s'y fait, ça peut par moments peut-être ressembler à un artifice, mais bon, on s'y fait. Et puis, il s'insère à chaque fois, évidemment, ça n'est pas gratuit, parfaitement, dans votre texte. Pourquoi cette volonté, comme ça, d'avoir ces références constantes à la chanson? Et c'est vraiment la chanson d'aujourd'hui, contemporaine, des titres qu'on connaît tous.
Vous me disiez qu'un premier roman, il doit y avoir quelque chose d'autobiographique. Au fond, c'est ça qui est autobiographique dans ce premier roman. C'est mon amour immodéré de la chanson. Dans la chanson, on trouve tout, toutes les émotions, la joie, l'amour, la tristesse. Et je trouve qu'il n'y a pas une situation qui n'ait pas déjà été décrite par 4, 5, 10 chansons. Donc, quand j'ai écrit ce texte, vraiment, les morceaux de chansons me venaient, mais plus que naturellement. Et je trouvais que ça s'écrivait bien. L'expérience d'Alain René dans « On connaît la chanson »
oui,
fonctionne plutôt bien.
C'est un peu le même principe.
C'est le même principe. Je me suis dit, je vais essayer de l'intégrer dans le texte. Et face à ça, il y a plusieurs réactions. Il y a effectivement un certain nombre de gens qui ont été un peu gênés à la lecture, qui disent « je ne suis pas sûr de comprendre ce que ça apporte ». Ceux qui ont beaucoup aimé, ceux qui disent « on est dans une lecture qui est un peu oppressante parce que on est emmené vraiment dans cette aventure. On a du mal à en sortir. Et au fond, les chansons sont une façon de donner quelques respirations dans cette lecture. Et puis, il y a l'analyse que je trouve la plus formidable. C'est pas du tout de moi, qui sont des gens qui me disent « mais au fond, c'est le cœur de la tragédie antique. Donc, on a quelqu'un qui nous raconte ça. »
Le cœur, c'est H. Hein,
c'est H.
O-E dans l'O-U-R, bien sûr.
Absolument. Je pense que si je devais le résumer, les chansons, c'est le seul moment où Claire se confie. C'est le seul moment où elle nous dit la vérité, où elle nous dit ce qu'elle a dans la tête, où elle n'est plus en représentation.
Alors, s'il fallait, bien sûr. Vous savez d'ailleurs, il y a combien de titres de chansons, hein?
Je le sais parce que je les ai cherchés pour remercier les auteurs. Il y en a 64.
Alors, la question est peut-être un peu cruelle, mais s'il fallait en choisir une seule qui, pour vous, serait la BO parfaite de « Je me suis tue ».
Oh, je crois que ce serait la première. Celle de Bernard Lavilliers. Où je cite Betty, cette solitude si pure et si dure qu'on peut la toucher.
Et si rude,
et si
qu'on
rude
peut, la
qu'on
toucher.
Peut la toucher.
Voilà. Ouais. Page 10. On vous souhaite bonne chance. D'abord, on vous refélicite pour ce premier roman et puis bonne chance pour ceux d'après.
Merci beaucoup.
Tu n'as pas sommeil, tu fumes et tu veilles, t'es tout écorché. et comme un chat triste, perdu sur la liste des objets trouvés. La nuit carcérale tombant sur les dalles et ce lit glacé. Aller et venir, soleil et sourire sont de l'autre côté. Ces murs, ces grillages, ces portes et ces cages, ces couloirs, ces clés. Cette solitude, si dure et si rude, qu'on peut la toucher. Ce rayon de lune, sur le sol allume, visage oublié. De celui que t'aimes, qui tire sur sa chaîne, comme un loup blessé.